Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou !
Vous écoutez les entonnoirs. Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'es fou ? C'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi, les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais fait quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
et ouais. Quoi.
Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était dingo là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Avec tout ça, il y a la
Alors, je vais essayer de vous parler des entonnoirs en vous parlant de ce que j'apprécie. Alors, il y a beaucoup de choses. La première, c'est que les entonnoirs ont lieu le lundi, toute la journée, ce qui me permet de créer une dynamique pour poursuivre le reste de la semaine de façon active. Je démarre la semaine du bon pied avec les entonnoirs. Ensuite, l'atelier réunit d'autres usagers des secteurs psychiatriques. Et cela permet de les rencontrer et de créer des forts liens d'amitié. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Lors des émissions, nous partageons nos points de vue sur différentes choses, l'actualité, des sujets de société, etc. Ce qui permet de connaître mieux les autres malades. Ce sont devenus des amis et sympathiser avec d'autres usagers de la psychiatrie m'a permis de sortir des idées négatives sur les personnes folles et les soi-disant fous. Alors la journée aux entonnoirs se déroule en deux temps. Donc le matin, il y a la préparation de l'émission et l'après-midi, il y a l'enregistrement même de l'émission. Alors nous traitons de beaucoup de sujets et durant les temps de débat, nous échangeons nos points de vue. Ce qui me permet de travailler ma concentration qui était défaillante à cause des troubles, mais aussi l'écoute des autres. Le fait que l'émission soit diffusée sur les ondes me donne une responsabilité envers les auditeurs. Je travaille la cohérence de mes propos, j'apprends beaucoup des autres. Grâce aux entonnoirs, j'ai réussi à ne pas baisser les bras et à ne pas m'installer dans la maladie. Je pense que cela m'a permis de garder une estime de moi-même. Le fait de s'adresser à des auditeurs permet de ne pas être uniquement un malade, mais aussi un citoyen. Je m'exprime et pour le faire, j'ai besoin de m'intéresser aux choses qui font le monde. Alors les entonnoirs et moi-même avons rencontré plusieurs acteurs culturels, institutionnels, médicaux et aussi associatifs, ce qui est très positif pour notre culture générale et pour apprendre de la vie. Par la suite, j'ai voulu prolonger l'expérience radiophonique. Donc, j'ai donc présenté un projet à l'association Radio Boomerang d'une émission en parallèle. Et donc après que ce projet soit accepté, j'ai adhéré à l'association. Donc depuis le début de l'année, avec un autre animateur des entonnoirs, qui n'est pas là aujourd'hui mais qui s'appelle Jérôme, nous proposons une heure de direct sur les ondes de Radio Boomerang, une émission hebdomadaire sur la musique. C'est valorisant et bon pour le moral d'être de nouveau porteur d'un projet et responsable après une période de convalescence. Aujourd'hui, je peux dire que je me sens capable d'avancer de nouveau pour construire ma vie, parce que justement cet atelier m'a tiré vers le haut, et donc, comme je le disais, ne m'a pas installé dans la maladie. Et donc, je remercie les personnes qui ont créé cet atelier et les entonnoirs pour ça. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur Vanès, de ce témoignage.
Alors, je voudrais dire quelques mots sur Johan. Johan, c'est un ami, mais malheureusement, aujourd'hui, il ne pourra pas être présent pour des raisons personnelles. Alors, il faut savoir que Johan, il est animateur ici aux entonnoirs et que parallèlement, il travaille à Radio Boomerang où il dirige des émissions. Enfin, voilà, je souhaite un bon rétablissement et bravo pour ce témoignage.
Là, on va faire un petit tour de table, on va se présenter. Alors moi, je suis François, aux entonnoirs depuis quelques temps. Gilbert, pourquoi tu viens, toi, aux entonnoirs ?
Alors, je viens parce que pour voir des gens, parce que c'est pas toujours intéressant, la télévision.
Malika, qu'est-ce que tu aimes à la radio ?
Moi, j'aime le contact des gens et une fantaisie. Et toi, Salima, qu'est-ce que tu...
Est-ce que ça m'a aidé ?
Est-ce que ça t'aide ?
Oui, bien sûr, ça m'a beaucoup aidé dans ma maladie. Et je dirais que ça m'a aussi permis d'avancer, d'évoluer dans la vie de tous les jours. C'est aussi ça change du quotidien et parallèlement. Enfin, je veux dire, c'est ne pas m'isoler et voilà, c'est améliorer, évoluer dans la vie. Et ça m'a beaucoup aidé les entonnoirs et je remercie beaucoup ceux qui l'ont créé. Donc Nathalie, dis-moi, en as-tu rêvé?
Oui, beaucoup. C'est ma passion depuis très longtemps. J'ai déjà, par expérience, fait une émission sur Radio France dans les années 80 où les radios libres, à l'époque, faisaient une percée surprenante. Et toi, Florent, est-ce que ça t'a permis de te concentrer?
Bah, c'est-à-dire qu'au départ, au point de départ, moi, ma faiblesse était la concentration, pardon. Et bon, c'est mon talent d'agir quelque part, hein, comme chacun sait dans l'équipe. Bon, c'est ça qui fait que je suis un peu en faiblesse. Je me démarque des autres un peu négativement avec ça, en fait. Et en fait, pour gommer tout ça, il faut juste pas trop tabler sur les médicaments. Pas trop tabler sur les médicaments et voilà quoi, parce que ça peut poser problème. Hein. Et donc, tard, trouves-tu du plaisir à la radio en entonnoir?
Oui, je trouve beaucoup de plaisir aux entonnoirs parce que en venant aux entonnoirs, j'ai rencontré des personnes et puis ces personnes sont devenues des amis, des proches, des êtres que j'admire au fur et à mesure. Et je veux dire que les entonnoirs, c'est une émission, c'est à la fois, je ressens ça comme un élément charnel, un élément physique plutôt. Parce que j'aime le contact avec le matériel radiophonique, le micro, le contact avec le micro, le casque, enfin un petit peu la technique, et c'est un contact intellectuel parce que j'aime beaucoup apprendre ici, j'acquiers des connaissances, on apprend un petit peu ce que c'est que le travail d'animateur de radio et le journalisme, et c'est pour ça que je trouve beaucoup de plaisir à faire ce que je fais.
Ce que je voudrais dire, c'est que la radio Les Entonnoirs, c'est une radio qui nous permet de s'exprimer. Et pour les gens qui étaient renfermés et qui n'avaient pas qui s'exprimaient difficilement, ça nous a permis de s'ouvrir à la vie. Et je pense que le dialogue est la meilleure des armes.
Merci, Salima. Lors de notre première invitée. Non, c'est monsieur passé. Dognon. C'est monsieur Dognon.
Oui.
Alors, on voulait vous demander, qu'est-ce que vous pensez des entonnoirs en général?
Ah, ce que je pense des entonnoirs, je viens d'entendre beaucoup de choses intéressantes, là. D'abord, un moment de liberté. Ça, c'est vital, je pense que... Et puis, la parole. La parole, surtout. La parole déliée. On peut se permettre, tout en respectant les autres aussi, ça c'est aussi important, hein, de dire des choses, de vivre des choses ensemble. Cet accompagnement intellectuel est riche et c'est ce que j'apprécie chez les entonnoirs. C'est pas la première fois que je vous rencontre et je suis toujours heureux d'être interviewé par vous aussi parce que je pense que Archipel, en tant que président d'Archipel, on vous a accompagné dès le départ. Je pense que c'était pas évident, hein, de proposer à une association, un établissement, la création d'une radio. C'était toujours un petit peu, en réfléchissant à ça, ça paraissait un peu difficile. Est-ce qu'on allait être perçu? Comment est-ce qu'on allait entendre la voix des personnes? Comment est-ce qu'on allait être compris de ce qu'on voulait dire, ne pas paraître effectivement trop différent de la normalité, on va dire comme ça. Enfin, la normalité, je mettrai des parenthèses là-dessus. Mais tout au moins, je pense que Archipel vous a aidé aussi parce que vous avez construit un projet et que ce projet a été présenté lors du prix Christian Balthazar. Ça fait une paire d'années, ça. Six ans. D'accord. Donc ça a été le démarrage. Et puis après, vous avez été chercher les moyens de vraiment créer ce groupe. Hein, et aussi, il y a beaucoup de gens qui ont participé. Ils sont peut-être plus là autour de la table, mais au début, ils étaient là et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent, même s'ils le disent pas ouvertement. Je pense que ça, c'est important aussi de sentir que ce que l'on fait, c'est aussi du concret et pas uniquement pour se faire plaisir. Et enfin, moi, je vis les entonnoirs de cette manière-là.
Et au départ, en fait, les entonnoirs, c'était un défi. Et vous pensez qu'il y a des résultats positifs, on arrivait là où on voulait, on est sur la bonne voie?
Ben, la radio, c'est difficile, mais je pense que vous y arrivez et vous êtes déjà assez loin dans la perspective de votre accompagnement radiophonique, on va dire comme ça. Je pense que vous avez travaillé énormément. Il y a eu des gens qui sont venus, des techniciens, si je me souviens bien, sont venus vous accompagner pour dire, pour enfin vous donner quelques bases, parce que parler devant un micro, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, c'est, on peut être angoissé, et puis notre parole, comment est-ce qu'elle va être entendue, c'est ça aussi. Mais je pense que il y a beaucoup de gens qui, je vous le disais, hein, beaucoup de gens sont très heureux et même fiers, je pense, de cette entreprise, on va dire comme ça.
Merci.
Est-ce que vous pensez qu'on est tous des pros la radio, non?
J'entends pas bien là.
Je veux savoir si vous trouvez qu'on est tous des pros.
Ah, vous êtes des pros. Ah, moi, je pense que vous êtes des professionnels. Faut pas être modeste. Hein. Ne soyez pas modeste. Au contraire, vous êtes des pros. On vous entend à la radio. Je pense que beaucoup de gens attendent aussi votre émission. Je pense que oui, dans ce que vous faites, vous êtes des professionnels. Moi, je vous reconnais en tant que professionnel. C'est une bonne chose. Vous n'avez pas le salaire encore, mais ça viendra.
Vous savez, le métier, il rentre un petit, enfin, tout doucement, mais sûrement.
Ben, j'espère pour vous que vous avez envie d'y faire un métier, mais d'abord le dérivatif qui est de cet accompagnement que vous avez au niveau du groupe et toute cette cohésion. Je trouve que c'est très riche, ça.
Merci.
Merci à vous.
Alors, je vais vous donner un petit peu le principe de déroulement de l'émission. On va vous passer des extraits d'émissions anciennes. Des extraits qui vont permettre à nos invités de réagir sur cet extrait et sur ce qu'ils en pensent. Voilà.
Alors maintenant, nous allons recevoir le docteur Alexandre, madame Fabienne Liagre et le docteur Portena.
Maintenant, chers auditeurs, auditrices, nous allons passer autour de table et nous allons parler des présidentielles. Vous savez qu'il y a eu des élections hier.
Ah bon?
Et nous allons parler. Je te laisse la parole, Johan.
C'est moi, j'ai la difficile tâche d'introduire ce tour de table. Je dirais qu'une chose, on a que 8 minutes pour aller vite. Moi, je dirais simplement, on lâche rien sur Sarko, perpétuité pour Sarkozy, il nous en a trop fait baver. Hier, il a dit, je ne pourrai jamais rendre tout ce que vous m'avez donné. Ben, moi, j'espère qu'il va tout rendre, parce qu'il a foulé plein de trucs.
Il manquait pas de son pouvoir.
Bon, ben, le propre d'un tour de table, c'est que vous preniez la parole. Allez-y, Roger Lucien.
Bon, moi, je vais parler du président sortant, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Et que contient le discours de Nicolas Sarkozy? Il contient une phrase qui est restée célèbre dans le mauvais sens, dans la mémoire des personnes qui ont assisté à ce discours. Que dit cette phrase? Nicolas Sarkozy dit « L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire ». Bon, pour répondre à cette phrase, je vais d'abord dire que c'est une contre-vérité, ce n'est pas exact. Et il a fait preuve, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy encore, d'arrogance en le disant ce jour-là. Et pour preuve, je vais vous lire un extrait du livre du savant Tchekanta Diop, intitulé « Civilisation ou barbarie » qui nous dit ceci pour vous donner un petit peu une idée du savant pour que vous sachiez un petit peu à qui on a affaire. Donc que dit ce livre? Il dit « Les recherches poursuivies en paléontologie humaine par feu le docteur Liquet en particulier ont permis de placer le berceau de l'humanité en Afrique orientale dans la région des Grands Lacs. »
Voilà. Voilà, donc nous allons demander à nos invités de bien vouloir, s'ils le veulent, commenter un petit peu cette réflexion.
Sur la liberté de ton des entonnoirs, sur la liberté d'expression, qu'est-ce que vous avez à dire de ça?
Merci Monsieur Alexandre pour cette priorité donnée aujourd'hui aux dames. Alors la question c'est...
Qu'est-ce que vous pensez de la liberté de ton et de la liberté de parole des entonnoirs?
Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites depuis quelques minutes par rapport à cette liberté. Je pense que derrière la liberté de ton et d'expression des entonnoirs, il y a la liberté de ton et d'expression que les uns et les autres souhaitons donner aux patients souffrants, comme vous l'êtes, comme tout le monde peut l'être à n'importe quel moment de son existence. Donc on ne peut être qu'admiratif devant ce qui s'est fait ici. Mais je pense que tout ça est à replacer derrière le souhait de donner cette liberté de ton et d'expression, non seulement ici, mais dans d'autres lieux et dans d'autres temps.
À l'hôpital, par exemple.
Comment ?
À l'hôpital, par exemple.
À l'hôpital, par exemple.
C'est justement ce que vous dites. Là, j'ai, grâce à Madame Hazan, je suis dans une association. Donc, ça rejoint. Je suis dans une association. Oui. Donc, je sors un petit peu du cadre des entonnoirs, mais c'est Madame Hazan qui m'a proposé de rejoindre la pause. Peut-être que vous connaissez le groupe d'entraide mutuelle.
Je connais la pause, le GEM, oui, tout à fait.
Donc, ça corrobore un petit peu vos propos. Donc, cette liberté, il faut la conserver. Aux entonnoirs, mais aussi au-delà des murs des entonnoirs, par exemple dans les associations ou à l'hôpital, je pense que c'est très important, quoi.
Oui, c'était tout à fait le sens de ma réponse à votre question.
J'y arriverai, vous en faites pas.
Bonjour, ça me fait plaisir de vous revoir. J'ai eu la chance d'être invitée, et alors moi ce qui me marque, si vous me parlez de liberté d'expression, sur les mots, alors c'est peut-être un peu classique, les mots pour les mots. Et je trouve que, au-delà de tout ce que vous exprimez, c'est que vous savez vivre et ensemble, et moi j'ai vécu un moment fabuleux en étant invitée. Donc chapeau, on parlait de professionnalisme, oui, en effet, vous savez vous entendre. Je vous avais dit, oula, vous me prenez fort à partie. Et là, je me rends compte que vous avez beaucoup progressé à nouveau. Bravo.
Merci, merci.
Merci.
Docteur Alexandre.
Les messieurs, donc. Moi, je veux peut-être dire que quand l'idée des entonnoirs est née, d'abord, on ne sait plus très bien comment cette affaire est arrivée dans l'esprit des uns des autres, mais ce que je peux dire, c'est sans doute le résultat de la conjonction à la fois donc d'Éric Schroeder, qui était cadre de santé dans le service dans lequel je travaille, et aussi Pascale Debroc, qui était directrice ici de la... conditions publiques, et qui l'est d'ailleurs toujours, la sœur d'un des collègues du service, donc ça facilitait un petit peu les relations, et puis surtout la parution d'un article dans Télérama, donc en avril 2002, qui était consacré à l'expérience, qui relatait l'expérience de l'hôpital psychiatrique de Buenos Aires, où des patients s'étaient regroupés et assuraient une émission un petit peu comme la vôtre. Et je ne sais plus comment on a échangé cet article, comment c'est venu avec Erika, mais en tous les cas, moi, à l'époque, j'ai retrouvé en lisant l'article un peu l'ambiance de la psychiatrie que j'ai connue quand j'étais interne dans les années 70, donc peu après 68, révolution que j'ai fait de loin, et on retrouvait un peu ce désir de donner la parole aux patients avec un projet un petit peu plus politique que ce que l'on trouve aujourd'hui dans l'organisation de la psychiatrie, dans la façon dont on dit les choses. Et ça, moi, ça m'avait bien plu dans cet article. Et c'était peut-être un peu naïf, un petit peu romantique aussi, de penser que les patients pouvaient peut-être aussi parler, s'adresser aux gens, à tout à chacun. Ce qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire, on le sait bien. Et puis c'était surtout l'UNAFAM, une association tout à fait importante qui défend la situation des malades et qui essaie d'améliorer les réponses qu'on peut apporter à leurs difficultés, mais qui parle au nom des patients et jamais les patients eux-mêmes. Les associations de patients n'avaient pas, il y a 10 ans, la place qu'elles ont aujourd'hui, et ça me paraissait tout à fait important. Et je trouve que cette liberté, effectivement, vous avez su la conquérir. Je peux dire que dans les relations qu'on a maintenant avec les patients qui viennent à la radio, c'est plus tout à fait les mêmes. Hein. Les gens parlent beaucoup plus spontanément. Il y a une relation, un niveau de relation entre le patient et le médecin qui n'est plus le même. C'est quelque chose de beaucoup plus horizontal que cette situation qu'on le sait, médecin malade traditionnel. Et je crois que ça, on peut aussi remercier beaucoup la radio d'avoir permis tout ça à certains patients. Alors, donner envie et plus confiance en eux-mêmes. Parfois, peut-être un peu trop. C'est aussi des risques de la radio, et pas uniquement la radio les entonnoirs, mais la radio aussi plus générale. On connaît tous des présentateurs qui ont un petit peu dépassé les limites et qui se sont, voilà. Ben, c'est un petit peu pareil aussi. Parfois, un peu trop de radio peut être aussi un petit peu dangereux.
Eh bien, on vous remercie pour vos témoignages et on va passer aux prochains invités. Alors, j'appelle de Monsieur Jean Burry et Ben.
Merci.
Merci beaucoup.
Bienvenue donc pour l'émission numéro 186. Nous accueillons donc Monsieur Lee et son interprète pour une petite interview. À toi, Bruno.
Oui, donc Monsieur Lee qui est psychiatre en Chine et Mademoiselle Cheng qui est sa collaboratrice et interprète, je crois, en le français chinois.
Oui.
Que pensez-vous de la radio des entonnoirs? Est-ce que déjà c'est possible qu'ils nous écoutent en Chine? Est-ce qu'ils peuvent nous écouter en Chine, les entonnoirs?
Oui,
c'est plutôt le radio, cette radio, c'est, il était très étonné, c'est une bonne surprise, c'est un cadeau plutôt pour cette mission, parce qu'il était vraiment étonné par un radio organisé avec les patients et tout ça, et c'est étonnant et c'est impressionnant. Ce qu'il pouvait de ce radio, c'est que il se rend compte que les patients ont vraiment le même statut que les autres, sont pareils, sont identiques. Et si maintenant il est en train d'apprendre le français, il travaille très fort. Il espère qu'il arrivera par bien parler le français. Et si vous pouvez lui donner l'adresse pour le radio, et il va le suivre de temps en temps. Ça c'est sûr.
D'accord.
Alors Jean et Ben, je voudrais savoir, enfin, chacun son tour, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cet extrait de ce psychiatre chinois?
Moi je dis juste bonjour au docteur Lee qui nous écoute de Chine en ce moment même. Voilà, je vais laisser la parole à Jean pour...
Ah, si ça passe sur Internet.
Mais bien sûr.
Je pense oui. Alors ben, Jean qui est le président de Radio Boomerang, qui est géré par une association qui s'appelle Association Roubaixienne de l'audiovisuel et de l'expression libre, donc qui a fêté d'ailleurs ses 31 ans là ce week-end, donc très branché sur l'expression libre. Et moi, l'expression libre, bon, c'est pas tout simplement, effectivement, en 81, dire on a cassé le monopole public et on peut s'exprimer, on peut dire n'importe quoi. Non, c'est pas tout à fait ça. L'expression libre, bien moi, je la vois comme les entonnoirs, en fait. L'expression libre, c'est les patients qui peuvent exprimer leur situation, exprimer comment ils pensent la vie, comment ils pensent le monde, et on leur donne la possibilité de le faire sur nos radios, l'expression libre. Voilà, c'est ça aussi pour nous, l'expression libre, le pouvoir de s'exprimer. Et la deuxième chose que j'ai trouvé, c'est Johan tout à l'heure qui disait bon, on a le respect de l'auditeur, et en fait l'expression libre, ben voilà la limite, respecter l'auditeur dans ce qu'il pense, dans ses pensées, dans ses opinions politiques, religieuses, etc. Voilà un peu l'expression libre, ce que j'en pense.
Moi, je reviendrai peut-être plus sur le fait que ce psychiatre chinois qu'on a reçu dans les entonnoirs ait été surpris par l'émission telle qu'elle est aujourd'hui. J'imagine bien que faire une émission comme ça sur une radio associative en Chine, déjà je doute que les radios associatives en Chine, ça existe. La liberté d'expression là-bas, je pense pas que ce soit la même non plus. Donc c'est quelque part un peu... l'entendre dire ça, c'est rendre hommage aux radios qui diffusent ces émissions-là, aux radios qui existent. La chance qu'on a en France d'avoir des radios libres, ce qui n'est pas le cas forcément partout, même si peut-être qu'elles sont un petit peu moins libres qu'au début des années 80, depuis que le CSA existe et ce genre de choses. Mais enfin, toujours est-il que voilà, si les entonnoirs sont diffusés aujourd'hui sur les ondes, c'est grâce à ces radios-là. Et c'est un privilège qu'on a en France de pouvoir faire ça. Voilà.
J'aurais une petite remarque humoristique à faire en parlant de Monsieur Lee. Monsieur Lee, on vous respecte, on sait mesurer nos propos.
D'accord. Après ces commentaires, nous allons passer à la pause musicale de Roger Lucien. Roger Lucien, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui?
Alors, bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. L'une des particularités de cette émission, c'est d'écouter un petit peu lors de nos différentes émissions, les musiques du monde. Donc aujourd'hui, nous allons prendre la direction de l'Afrique centrale, plus précisément du Cameroun, où nous allons écouter un chanteur musicien connu et reconnu par le talent en la personne de Richard Bonnat qui nous interprète Essoukoudou.
Merci Roger Lucien pour ce morceau. Est-ce que tu aurais un commentaire ?
Donc, je vais vous parler un petit peu de Richard Bonnat. Richard Bonnat est né au Cameroun. Il a vécu au Cameroun peut-être jusqu'à l'âge de autour de 20 ans. Après, il est venu en Europe. Il a eu quelques problèmes, je pense, au niveau de ses papiers, donc c'était difficile pour lui en Europe, mais il était déjà musicien lorsqu'il était en Europe. Donc il a immigré aux États-Unis, et c'est là-bas que il a beaucoup travaillé, et il s'est perfectionné, parce qu'il a travaillé pas mal avec des artistes américains, notamment des jazzman, oui. Et donc dans sa musique, il y a pas mal d'influences américaines, quoi. Donc, et il est toujours aux États-Unis, il vit toujours là-bas, et il travaille avec les plus grands comme Herbie Hancock. Je sais pas si le nom vous dit quelque chose.
Oui, oui, oui.
C'est comme ça qu'il s'est perfectionné. Voilà.
Et est-ce qu'il a travaillé avec d'autres artistes, en Europe plus précisément?
Je ne sais pas. Il a travaillé en Europe parce qu'il était déjà musicien lorsqu'il était en Europe, mais c'est plus aux États-Unis qu'il s'est perfectionné, quoi. Où il y a eu pas mal d'influences américaines, c'est-à-dire notamment du jazz dans sa musique. Voilà.
Mais vu la gueule du CD, c'est récent, non? Il est récent, cet album-là, ou pas?
Ben, il date à peu près de, je crois, de 2009, hein, je crois.
Bon, c'est nous, 2009.
Lucien, tu as dit qu'il y avait des violences. Des violences quoi?
Non, j'ai pas parlé de violence, hein.
Ah oui, ok.
Non. Eh ben, on te remercie, Roger Lucien, pour ce morceau. François?
Notre prochain invité est Nicolas Daquin. Alors Nicolas Daquin, est-ce que vous pouvez vous présenter un tout petit peu avant l'extrait?
Me présenter moi?
Ouais.
Je fais des chansons à mes heures gagnées et je travaille dans une association qui s'appelle Le Camion.
D'accord. Voilà.
On connaît.
Comment?
On connaît.
Le Camion, peu, parce qu'on dit beau comme un camion.
Ah, mais nous on connaît aussi.
Vous connaissez? Ouais, ben, oui, vous êtes venu faire l'émission d'ailleurs une fois. Voilà. C'est une émission, on propose des ateliers d'art plastique.
D'accord. Voilà.
Nicolas Daquin, qui est connu et reconnu mondialement, n'est-ce pas Ahmed?
Ah, dans ma rue, je suis un peu connu. Ouais.
Nicolas, excusez-moi.
Oui.
Pourquoi beau comme un camion? J'ai jamais entendu cette expression.
Ah, ben, c'est une expression.
Ah,
ouais, on dit beau comme un camion, ouais.
Ah,
bon. L'endroit, ouais.
On va passer à l'extrait. Voilà, c'était un extrait d'une émission qu'on avait faite en direct du Palais de Tokyo, en fait, avec le petit-neveu d'Antonin Artaud.
Ouais.
Non, neveu, pas petit-neveu.
Le neveu, oui,
si tu veux. Moi, si je peux me permettre, si je peux avoir vite fait la parole, si je peux me permettre, nul est à l'abri de la maladie. Et on ne sait pas ce qui peut nous arriver du jour au lendemain. On peut être en haut de l'échelle et puis chuter ne pas se rendre compte. Voilà. Et on peut être très bas et puis se refaire petit à petit. Et je pense que nous ici, je parle pour ceux des entonnoirs, enfin nous les entonnoirs, hein, je pense qu'on s'est... Enfin, je connais pas les pathologies de tout le monde, je ne connais même pas d'ailleurs. Mais moi personnellement, je dirais que je me suis refaite et c'est grâce surtout au suivi, les infirmiers bien sûr, à m'aider à douche. Et puis je dirais les entonnoirs, la radio libre, hein, l'expression, la parole, la liberté de la parole. Au micro, bien sûr.
Merci, Salim.
Voilà.
Nicolas, est-ce que tu as un commentaire par rapport à l'extrait qu'on a entendu ?
Non, mais c'est vrai que d'entendre le nom Antonin Artaud, j'allais dire Entonnoir Marteau, mais non.
C'est l'un des titres de ta chanson.
Parce que j'avais écouté cette émission, ce qui m'avait marqué, et Claire d'Anjou, qui est une chanteuse, mm-hmm. elle, par contre, qui est connue plus que dans sa rue, m'avait demandé de si j'avais pas une chanson qui traite de ce sujet, de la folie. Et moi, quand j'ai écouté Les Entonnoirs, je trouvais d'abord le titre superbe. Je trouve que le titre, déjà, on est original, et puis ça montre plein de choses, qu'il y a du recul, qu'il y a plein de choses, voilà. Et pour moi, entonnoir, Antonin, Artaud, Marteau, voilà, c'est, et souvent une chanson, c'est un jeu de mots. Donc, voilà. Vous voulez que, donc je vais vous chanter?
Oui.
Ah oui, c'est un petit peu chanter un peu, oui.
A cappella.
Antonin Marteau?
Je m'appelle Entonnoir Marteau, le meumeux, le momo. Le cinglé, le dingo, le décalé du ciboulot, un cas typique, un cas clinique, un cas catastrophique. Chenille dans le cerveau, souris dans une baignoire, éléphant au fond de l'eau, lui poussant des nageoires, papillon sur l'épaule, araignée dans le plafond, un gros bourdon qui frôle, parfois le mur des cons. Une paire de schizos à se couper les ailes, drôle d'oiseau de zozo pour un régime sans ciel. Je m'appelle Entonnoir Marteau, le meume, le momo, le cinglé, le dingo, le décalé du ciboulot, un cas typique, un cas unique, un cas catastrophique, carrément à l'ouest. Oui, j'ai perdu le nord et mon trop-plein de l'est, je le jette par-dessus bord, complètement à la masse. Et encore, je suis poli, j'ai dans ma calebasse un gros grain de folie. Ça fume dans ma caboche et ça vire au cauchemar. J'ai comme du Jérôme Bosch, en vachement plus bizarre. Je m'appelle Entonnoir Marteau, le meume, le momo, le cinglé, le dingo, le décalé du ciboulot, un cas typique, un cas unique. Un cas catastrophique, les psys, les spécialistes du ciboulot m'assaillent, je résiste, ils insistent à me remettre sur les rails, mais si, disent-ils, amis de la médecine, mon âme est trop sensible, je quitte vos officines, j'ai fumé la moquette, je me shoote au firmament, je t'en prie, ne t'inquiète pas ma petite maman. Je veux plus qu'on camisole, je voudrais aller voir, pour ça faut que je décolle, de l'autre côté du miroir, j'ai cramé ma cervelle, à coups de neuroleptiques, mes dernières étincelles sont un peu rachitiques, pour ma bouche édentée, et mes électrochocs. Dites à l'humanité que c'est elle qui débloque. Je m'appelle Entonnoir Marteau, le meume, le momo, le cinglé, le dingo, le décalé du ciboulot, un cas typique, un cas unique, un cas clinique.
Bravo.
Merci.
Laurent.
Mais dis-moi Nico, pour revenir à ton actualité, tu travailles sur un nouvel album, un prochain album ou
Je viens de sortir un album, ouais.
Un single,
un album de 20 chansons qui s'appelle Briques rouges et sable d'or. Voilà.
Nicolas,
oui.
Nicolas, je dirais, elle est mignonne, hein, ta chanson. Voilà, c'est ta chanson, c'est toi qui l'as écrite et compris. Enfin, bref. Mais dis-moi, qui est normal de nos jours, comme disait l'inspecteur Derrick?
Je sais pas, notre président, pareil, il est normal.
C'est ton point de vue, mais bon, enfin, chacun son opinion.
Je sais pas, non, normal, pas normal, c'est...
Ça veut rien dire.
C'est très large.
Oui. Comment? On est toujours normal par rapport à quelque chose ou anormal par rapport... Donc,
Eh ben, on te remercie, Nicolas.
C'est moi qui vous remercie. Merci, toujours un plaisir.
Et tu reviens quand tu veux.
Tu n'as fait que passer. Mais...
Merci.
Ok, ben merci.
À bientôt.
Bien.
Hein.
Et bonne continuation.
Merci beaucoup, Nicolas.
Merci. Alors maintenant. Alors maintenant, nous allons écouter un beau poème de Bruno. Bruno.
Oui, je vais lire le poème qui s'appelle Le fou dangereux, par provocation gauchiste, comme je suis, par rapport au pouvoir sarkozyste, qui dénigrait tellement les fous, et notamment, j'ai senti aussi que Sarkozy téléphonait tous les 5 minutes au Vatican, donc j'ai fait le fou dangereux. Voilà. Parce que moi, je respecte la laïcité de mon pays, et quand la laïcité est pas respectée, ben, je me mets en colère. Quoi. Je suis le fou dangereux, possédé par un chaos total, qui, dans un lien fort avec la détresse, emploie même les méprises, comme la séduction, qui caresse pour mieux saccager, car je me dois d'incarner le danger absolu et intégral. Je suis le fou dangereux qui ne travaille pas, bien en marge de la société, en parasite qui s'en sort, avec sa pension d'invalidité, passant amplement son temps à faire de la poésie, en s'autorisant à provoquer le système, cyniquement et impitoyablement, avec l'excuse intolérable d'avoir tous les droits en malade rebelle qui défie toujours plus les conventions officielles. Je suis le fou dangereux, de plus en plus fou, et qui dit, s'en foutant de tout, Dieu est mon caca et la Vierge Marie est une putain qui aime ça. On aura beau m'enfermer et m'isoler dans la cellule que vous voulez, je continuerai à être le fou dangereux agité qui s'agite excité par toute une agitation. Il n'y a qu'à voir le milieu de la psy se mobiliser pour moi et que je contamine d'autant plus par ses écrits que vous allez à coup sûr adorer, car ne suis-je pas ce fou dangereux qui a l'art de fasciner en détruisant tout sur son passage avec tant d'aise et de liberté dans sa façon de raisonner pour toujours mieux déraisonner. Et comme je suis de plus en plus fou et de plus en plus dangereux, en proie à la démence d'anéantir dans une urgence à un certain ordre établi, au nom de la moralité et des fondements de notre société, ce poème affolant et sulfureux doit être lu en sous-main parce que délibérément, il veut être le scandale dans une France fragilisée qui a en horreur ses méthodes invraisemblables de vandale. Voilà.
Merci Bruno. Bravo Bruno. Bruno, est-ce que tu as un commentaire par rapport à ton poème? J'ai trouvé que c'est un beau poème.
À des moments, écoutez, ce dont j'ai peur, c'est l'endormissement, la léthargie des gens. Et je crois, par rapport à ça, j'ai voulu faire un poème, ce que j'appellerais électrochoc. Mais le bon électrochoc, là, c'est pas l'électrochoc qui fait mal, quoi.
Mais pourquoi un fou dangereux, justement
Non, j'ai appelé le fou dangereux parce que pour ça, le pouvoir Sarkozy, le fou était automatiquement dangereux. D'après ce qu'on voyait dans les médias officiels. Donc je suis le fou dangereux, bah ouais. J'ai envie de faire peur, voilà.
D'accord, ben on te remercie. Et maintenant nous allons accueillir Madame Lefebvre et Ahmed. Ahmed, on te laisse la parole.
Ouais, heureusement que c'est du différé parce que la surprise du direct à propos de certaines réactions peut effectivement bouleverser l'émission. Et ça nous arrive effectivement aux entonnoirs de pouvoir improviser, de récupérer. Et c'est aussi la relation soignant-soigné dans laquelle aussi on est... quelquefois un peu en difficulté, quelquefois...
Non, j'attends tout de suite, c'est pas simplement soignant-soigné, Ahmed, c'est citoyen-citoyen.
Alors, citoyen-citoyen-citoyenne,
stagiaire.
C'est ça aussi, stagiaire. La particularité aussi des entonnoirs, c'est que les limites, quelquefois, on les pose. Alors, on les pose à quel niveau? C'est à nous aussi de les régler, en fonction de la situation dans laquelle on est, et toute la difficulté aussi de pouvoir réfléchir sur notre positionnement. Et là, l'éthique... Voilà, je vais introduire justement la question de l'éthique là qu'on a aussi au niveau des entonnoirs, puisqu'il y a 2 ans, on a pensé réfléchir avec la demande de la Fédération régionale de recherche en santé mentale, pouvoir réfléchir justement sur une réflexion autour de l'éthique. Et donc, Monsieur Danel, donc directeur de la Fédération de recherche, et Sophie Danel également, qui est la chargée de communication, et j'ai à côté de moi donc Madame la Présidente, Madame Lefebvre, ont accepté justement de pouvoir réfléchir autour justement de multiples questions qui peuvent être posées par nous, mais aussi par les animateurs patients au sein de cet atelier thérapeutique. Je vous propose là peut-être d'écouter la première chronique. On était parti sur l'invitation d'un expert. Donc là, on est allé à l'Institut catholique de Lille rencontrer
un éthicien,
le directeur de l'Institut d'éthique médicale donc de la Cato. Et donc là, on est allé le rencontrer en groupe et on lui a posé différentes questions sur l'éthique.
en partenariat avec la Fédération de recherche en santé mentale, les patients et infirmiers animateurs de l'émission Les Entonnoirs ont rencontré Jean-Philippe Cobot, directeur du Centre d'éthique médicale, pour échanger sur le thème de l'éthique dans le domaine de la santé mentale. Voici le premier épisode composé d'extraits de cet entretien enregistré en mars 2011 avec une première question. Pourquoi parler d'éthique en psychiatrie et quel est le rapport avec les entonnoirs ?
Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Cobot, je suis le directeur du Centre d'éthique médicale. D'une certaine manière, on peut comprendre la démarche éthique comme étant la volonté, depuis en tout cas, bon, l'éthique, on en parle depuis 15 siècles à peu près, 20 siècles, je ne sais pas, mais elle est revenue, je dirais, à l'avant-plan depuis une trentaine, une quarantaine d'années, et notamment parce qu'un certain nombre de personnes se sont indignées des recherches médicales que l'on menait sur des personnes qui n'étaient pas en capacité de donner leur consentement, c'est-à-dire de participer en connaissance de cause à ces recherches.
L'asile, c'était ça, hein. C'était un endroit quand même assez fermé, où on sortait pas, il y avait personne qui rentrait, et les gens fonctionnaient entre eux.
Moi, je voulais rappeler un fait divers. Il y a un enfant de 9-10 ans qui a été enfermé dans une unité psychiatrique pour adultes. Il était dans un lit de contention pendant quelques jours, pendant 3 jours, je me souviens. Et je voulais dire où est l'éthique dans tout ça, où est la morale dans tout ça. Il faut se poser la question.
Alors, notamment, ça a été dénoncé aux États-Unis dans les années 60-70. Et parce qu'on s'était rendu compte qu'un certain nombre de recherches avaient été menées sur des personnes dans des institutions pour personnes âgées, dans des institutions psychiatriques, etc., sans explication et sans recueillir le consentement des personnes.
Et je voulais dire qu'il y avait aussi des lois sécuritaires qui allaient être mises en place par le gouvernement. Et je crois que les internements vont être de plus en plus libres. Et donc ça réduit la marche de liberté des malades psychiques. Il faudra en parler publiquement. Et il faudra mettre en place, je pense, un haut conseil d'éthique pour parler un petit peu de ces lois sécuritaires par rapport à la liberté du malade psychique, parce que c'est très important, c'est une question de dignité personnelle, c'est une question de dignité personnelle, de fierté personnelle du malade psychique. Il faut lui rendre toute sa dignité, c'est un être humain comme les autres.
D'une certaine manière, le point de départ de l'éthique, c'est de s'indigner du fait qu'un certain nombre de personnes n'ont pas eu voix au chapitre dans la démarche médicale et la recherche médicale qui est nécessaire, mais qui, et on l'a essayé de le construire depuis lors, qui ne peut pas se faire à n'importe quelle condition. Et une des grandes conditions, et je pense que ça a été un peu le fil conducteur de la réflexion éthique depuis lors, c'est de prendre en compte, de respecter les personnes, de ne pas leur faire courir des risques inconsidérés, mais aussi, surtout, peut-être, de les entendre, de les écouter, de les entendre.
Moi, je prouvais que l'éthique, c'est pas quelque chose de figé à des dogmes. Dans le sens, par rapport à la maladie mentale, il y a un siècle, au nom de l'éthique, on les enchaînait, les malades mentaux. Bah oui. D'une certaine éthique, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Il y a des projets comme les entonnoirs, des projets expérimentaux.
La prise de parole que vous avez à travers une chronique, une émission comme celle-ci, est très proche de ce que voudrait l'éthique, c'est-à-dire donner voix au chapitre, donner la parole à toutes les personnes qui sont concernées par les soins, par la santé aujourd'hui.
Voilà, donc c'était un petit aperçu sur une certaine définition qu'on a justement de l'éthique, vue par Monsieur Cobot. Et donc peut-être là maintenant il y a quelques questions qu'on pourrait poser.
poser à Madame Lefebvre, donc, qui est présidente de la Fédération régionale de recherche en santé mentale, et Madame Deston, qui est directrice donc de soins à l'EPESMAL. Peut-être une présentation de la Fédération de recherche, Madame Lefebvre.
La Fédération de recherche, c'est réunit l'ensemble des acteurs de psychiatrie de cette région, quel que soit le mode, l'identité, j'oserais dire juridique, c'est-à-dire que l'on soit en public, que l'on soit en privé, pour des projets de recherche épidémiologique, pour essayer de mieux connaître les besoins en psychiatrie dans la région Nord-Pas-de-Calais. Elle associe non seulement les psychiatres, mais aussi les infirmiers, mais aussi les usagers, mais aussi les familles, aussi les directeurs administratifs, et c'est ça sa richesse. C'est la première de France sous ce concept. Moi, je suis très fière de la région Nord-Pas-de-Calais, et je dis c'est la première de France sous ce concept, puisque chacun a le droit d'apporter un petit peu sa pierre à cet édifice de recherche, qui est une recherche épidémiologique, donc ça veut dire de connaître les besoins, mais aussi une recherche pour améliorer les pratiques. Et c'est donner effectivement la parole à chacun des acteurs de la psychiatrie, pas seulement les psychiatres, ou pas seulement les usagers, effectivement.
Oui, peut-être que...
Pensez-vous qu'il y ait une éthique en psychiatrie ?
Mais de toute façon, oui, il doit y avoir une éthique de droit. Si vous voulez, j'écoutais Combo là, et je me disais finalement, l'éthique c'est quoi ? C'est se poser la question... Jusqu'où je vais faire pour les autres ce que moi, j'accepte qu'on fasse pour moi. Je crois que c'est ça l'éthique, c'est-à-dire se poser constamment, si j'étais dans la situation, est-ce que j'accepterais ? La différence de la morale, où la morale c'est quelque chose qui est imposé par une société, tandis que l'éthique, on doit toujours se poser cette question-là, est-ce que, en situation, j'accepterais ou j'accepterais pas, bien sûr, en prenant la dimension du soin, parce que bon, quelquefois, il faut prendre la dimension du soin, mais quand même, je crois que c'est essentiel de se dire, est-ce que j'accepterais pour moi, est-ce que j'accepterais pour mon fils, est-ce que j'accepterais pour mon ami, ce que moi, je vais proposer à ce patient qui est devant moi.
Donc là, vous avez objecté que votre parcours de base, c'est médecin psychiatre ou est-ce que
Je suis pas psychiatre. Hein. Je suis tombée dans la marmite très. Je suis médecin généraliste. J'ai été 16 ans médecin généraliste et j'ai eu la chance, je le dis, de découvrir la psychiatrie très tôt dans mon cursus. J'ai surtout eu la chance aussi d'avoir un milieu familial qui m'a non seulement appris mais m'a montré la richesse qu'il y avait chez l'autre, quelle que soit sa différence par rapport à ce que l'on étiquette normal.
Bruno.
Oui, moi j'ai un peu peur de l'éthique parce que finalement j'ai peur qu'on s'élève dans les airs à réfléchir et à méditer. Et puis il faut rester collé à la réalité pratique.
Mais justement.
Justement, je vois pas assez bien le lien pour l'instant. La morale, je vois le lien plus, mais pas l'éthique. Enfin, c'est mon avis.
Précisément parce que l'éthique c'est est-ce que moi j'accepterais, donc c'est au quotidien, c'est pas quelque chose qui est défini par des protocoles.
D'accord.
C'est quelque chose qui doit évoluer au quotidien, et on peut effectivement définir des grandes lignes, bon, parce qu'il faut quand même un certain nombre de cadres, mais après il faut toujours s'interroger par rapport à la personne qu'on a en face de soi.
Oui. Est-ce que vous pensez que le traitement médicamenteux prime sur le reste, est-ce que c'est indispensable, mais est-ce qu'il faut si on vit qu'avec ça
je pense que si vous voulez, il n'y a pas de règle, mais c'est pas valable pour la psychiatrie. Bon, c'est valable pour toutes les pathologies. Il n'y a absolument pas de règle. Quelquefois, effectivement, il ne faut pas jeter absolument les médicaments à la poubelle. Ils sauvent ils permettent de passer des situations difficiles. Mais je crois qu'il n'y a pas de règle. Il y a un temps pour les médicaments, il y a un temps pour autre chose. Je n'ai pas l'état d'âme par rapport aux médicaments.
Et pensez-vous qu'on puisse...
On va conclure bientôt.
Se débarrasser des maladies mentales, supprimer les maladies mentales, en fait. Annihiler les maladies mentales. Est-ce que vous croyez qu'on peut arriver avec les progrès de maintenant? Est-ce que vous pensez...
Je crois qu'il faut un peu... est-ce qu'on peut... Je vais vous retourner la question. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va supprimer tout le diabète de la Terre? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va supprimer toutes les maladies cardiaques? Bon, donc je pense que la maladie mentale, c'est une maladie qui va accompagner effectivement un individu, un citoyen à part entière, qui a droit à la parole. Bon, ça, je trouve que votre radio est très intéressante, parce que la citoyenneté, pour moi, elle passe par la parole.
Et c'est vrai, pas seulement pour les malades, c'est vrai pour aussi d'autres populations, le droit à la parole. Mais le problème pour moi, si vous voulez, c'est comme toutes les maladies chroniques. Bon, bien sûr, il faut essayer de les stabiliser, bien sûr, il faut essayer de les guérir, bien sûr, il faut faire avancer la recherche, qui à ce moment-là est une recherche fondamentale. Mais le problème, c'est surtout l'acceptation d'un autre qui va, à un moment donné, vous, moi, votre voisin, etc., va être confronté à une maladie chronique. Parce que finalement, vous savez, moi, j'ai un ami dont le fils est diabétique, c'est pas marrant non plus de ne plus pouvoir rien faire avec les répercussions que ça peut avoir, le fait de se piquer soi-même 3 fois par jour. Donc c'est une maladie chronique.
On va conclure.
Oui.
Alors c'est toute la question de l'éthique. On voit que le débat peut partir comme ça pendant des heures.
Voilà.
Non mais c'est toute la richesse qu'on peut avoir justement aux entonnoirs de pouvoir se questionner comme ça sur des questions. Enfin, c'est le cas de le dire quotidiennes. Qu'on vit aussi même au sein des entonnoirs. Moi, j'aurais juste peut-être une autre question, mais l'avant-dernière, parce qu'après, il y a la convention de partenariat donc, auquel on reviendra ensemble, avec la Fédération régionale de recherche en santé mentale. Madame Deston, il y a des espaces éthiques qui se sont créés au niveau des établissements. Vous pouvez en dire quelques mots?
Oui, enfin, pour ce qui est de l'éthique, j'ai écouté un petit peu le débat. Et
dans le micro, s'il vous plaît.
Déjà, pour moi, l'éthique, c'est un questionnement. Bon, alors, c'est à chaque fois que je vais faire quelque chose ou à chaque fois que je vais prendre une décision, est-ce que c'est bien pour le patient ou pour la personne qui est en face de moi? Après, pour faire de l'éthique, je pense qu'il y a, et j'espère que beaucoup de professionnels se posent depuis très longtemps ces questions. Bon, structurer et organiser un petit peu les choses, c'est un plus. Ça peut permettre, bon, par exemple, dans le cadre de la fédération, des échanges d'expériences, etc., d'un établissement à l'autre. Mais pour faire de l'éthique, il n'y a pas besoin d'un espace très structuré et très organisé. C'est vraiment la question qu'on va se poser au quotidien. Moi, par exemple, qui suis, bon, de base infirmière, mais qui ne donne plus de soins au quotidien, puisque je suis plus dans un rôle de gestion au niveau de l'établissement, je pense qu'à mon niveau, je suis aussi amenée à me poser des questions d'éthique. C'est toute l'éthique dans le management, dans certaines situations. Est-ce que je vais faire, c'est bien. Est-ce que c'est acceptable pour l'infirmier pour lequel je vais prendre cette décision, pour le cadre? Quelles vont être les répercussions sur le patient? L'éthique, c'est ça. C'est avant tout un questionnement, et bon, je pense que on n'est pas prêt de trouver toutes les réponses.
Non, Salima, s'il te plaît.
Et je dirais que parfois, il faut accepter l'inacceptable.
Certainement.
Est-ce que vous avez essayé le...
Florent, on a dit qu'on concluait.
Bon, bah, excuse-moi.
On va conclure maintenant. Bah, on vous remercie tous, chers...
J'aurais juste encore un élément qui est important. C'est la signature de partenariat avec la Fédération de recherche en santé mentale, puisque les entonnoirs, justement, par rapport à cette journée, avons décidé justement d'être partenaires et créer une chronique éthique et toc, donc justement sur l'éthique.
On en reparlera.
Oui.
Je peux y aller? Bah, je vais en profiter d'être au micro. Je représente Monsieur Noël, qui est le directeur de l'EPSMAL, et qui vraiment vous présente toutes ses excuses de ne pas pouvoir être présent, qui le regrette. On est quasiment arrivé jusqu'ici, mais il a eu un petit incident d'ordre personnel qui fait qu'il a dû retourner sur l'EPSMAL.
Donc,
je signerai la convention en son nom.
D'accord.
Merci. C'est bon, Ahmed, est-ce que...
Je pense, oui.
On vous remercie tous, chers invités, d'être venus. Et on vous dit à une prochaine fois. Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
parce que c'est des entonnoirs, parce qu'il donne plus fou dans la tête, et ça gratte plus fou sur ma tête, et lui a plus fou, c'est ça, des entonnoirs.